Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, vous avez tous décidé de venir ici. De toute façon, j'espère que c'est vous qui avez décidé et que personne ne vous a forcé à venir à l'église ce matin. En plus, j'espère que la décision de venir n'était pas trop difficile à prendre. Je suppose plutôt qu'elle faisait partie de la multitude de décisions que nous prenons chaque jour sans trop y réfléchir. Dans d'autres cas, la prise de décision demande plus de réflexion. Elle peut devenir un processus difficile, voire même laborieux. C'est surtout le cas si la décision aura des conséquences à long terme et si elle touchera non seulement ma propre vie, mais aussi celle des autres. C'est là que, tout d'un coup, nous nous rendons compte de notre responsabilité, ce qui peut être une expérience assez angoissante. La Bible nous parle d'une telle situation dans le premier livre des Rois, chapitre 3. Lorsque Salomon était devenu le nouveau roi d'Israël. Dans sa prière, Salomon dit, dans le premier livre des Rois, chapitre 3, versets 7 à 9, « Maintenant, éternel mon Dieu, c'est toi qui m'as fait régner, moi ton serviteur, à la place de mon père David, alors que je ne suis encore qu'un tout jeune homme et que je ne sais pas gouverner. » Voilà ton serviteur au milieu de ton peuple que tu as toi-même choisi, un peuple nombreux qui ne peut être dénombré ni compté, tant il est nombreux. Veuille donc donner à ton serviteur l'intelligence nécessaire pour administrer la justice pour ton peuple, afin qu'il sache discerner entre le bien et le mal. Sans cela, qui pourrait administrer la justice pour ton peuple qui est si nombreux ? Bon, nous ne sommes pas des rois, et la plupart d'entre nous n'ont pas la tâche d'administrer la justice pour un peuple nombreux. Mais je pense que nous pouvons quand même ressentir ce dont Salomon parle ici, quand nous pensons aux décisions difficiles de nos vies. Ça peut être le choix d'une vie professionnelle, le choix d'une formation ou d'un engagement à l'église, ou bien le choix d'un domicile ou d'un partenaire. Dans tous ces cas, mon propre futur et le futur de ceux qui m'entourent dépendent de la décision que je prends. C'est moi qui ai cette responsabilité, alors que, comme Salomon le dit, je ne sais pas gouverner. Ou bien, selon une autre traduction, que je n'ai pas d'expérience. Heureusement, nous ne sommes pas seuls dans ces processus décisionnels. Dans les minutes qui viennent, j'aimerais explorer avec vous comment Dieu veut nous accompagner et nous soutenir dans ces processus. Il y a quelque temps, j'ai eu une décision à prendre qui concernait un projet professionnel, mais qui avait aussi des conséquences sur ma vie de famille, parce que c'était clair que ce projet allait prendre pas mal de mon énergie et de mon temps. C'était un choix difficile parce que j'aime mon travail et je crois que c'est Dieu qui m'a placé là-dedans. Mais en même temps, je ne veux pas que le travail entraîne une négligence de ma famille. Je me suis alors adressé à Dieu dans la prière pour lui demander si je devais accepter ce projet ou non. Alors je ne sais pas comment vous faites pour entendre la voix de Dieu. Moi, j'ai simplement confiance que si je prie et si j'entre dans le silence, Dieu peut diriger mes pensées et me communiquer ses idées. C'est de cette façon que Dieu m'a parlé en ce moment. Et ce qu'il m'a dit était très surprenant. En fait, il n'a pas répondu à ma question, mais m'a lui-même posé une question. Il m'a dit, « Mathias, qu'est-ce que tu veux, toi ?» Alors, je ne savais pas trop quoi répondre à ça. Donc, j'ai dit, « Mais Seigneur, ce n'est pas la question. Je vais faire ta volonté. Donc, la mienne n'importe pas. » C'est très pieux comme réponse, non ? Mais Dieu n'était pas convaincu. Il m'a dit, « Si, c'est important ce que tu veux. » En tout cas, ça m'intéresse, moi. Et puis, tu vois, Mathias, dans ce choix, il y a des bonnes raisons pour les deux options. Alors, je ne veux pas prendre la décision pour toi. Je veux que toi, tu décides selon ta volonté et ton bon jugement. Et je veux que tu assumes la responsabilité pour les conséquences de ton choix. Nous avons un Dieu qui s'intéresse à nous et qui respecte nos désirs, nos préférences et nos besoins. Enfin, c'est lui qui les nous a donnés. C'est vrai que notre volonté peut être corrompue par le péché, mais ce problème-là ne va pas être résolu en niant que nous avons une volonté, mais en la renouvelant par la grâce de Jésus et la force du Saint-Esprit. Il est également vrai que Dieu prend un certain risque s'il nous laisse décider nous-mêmes. On aurait certainement moins de problèmes si Dieu prenait toutes les décisions lui-même. Mais ce n'est pas la manière dont il a choisi d'agir dans ce monde. Il a choisi d'agir à travers les hommes. Pour cette raison, dans nos processus de décision, Dieu ne s'intéresse pas seulement aux résultats corrects, mais à ce qui se passe dans nos cœurs, dans nos caractères et notre relation avec lui. Dans ce contexte, il y a eu une phrase qui m'a beaucoup touché dans la prédication de Jean-Claude Chablot il y a 2 semaines ici. Il a dit « Ne cherche pas la guérison, cherche Dieu qui guérit ». Et je crois qu'il en va de même pour notre sujet d'aujourd'hui. On pourrait dire « Ne cherche pas la bonne décision, mais cherche Dieu qui te conduit à la bonne décision ». En tant que chrétien, nous avons parfois la tendance à déléguer nos décisions à Dieu. Nous lui demandons ce que nous devons faire et nous attendons une réponse claire ou même un signe surnaturel. C'est possible que Dieu nous réponde de cette façon. Mais s'il ne le fait pas, sommes-nous alors incapables de décider? Ne nous a-t-il pas déjà donné tout ce qu'il faut pour prendre des bonnes décisions? Tout d'abord, il nous a donné sa parole, qui établit le cadre moral dans lequel nous avons la liberté de choix. Clairement, la Bible nous interdit certaines manières d'agir, par exemple dans les 10 commandements ou les enseignements de Jésus. Ça simplifie la vie si on sait déjà que certaines options, comme le vol, le mensonge, l'infidélité, sont exclues a priori. Mais cela ne veut pas dire que la Bible toujours réduit notre choix à une seule option. Souvent, nous avons plusieurs options qui sont moralement acceptables. Et pour ce cas, Dieu nous a donné d'autres outils pour arriver à une décision. Par exemple, notre intelligence, ou bien sagesse, qui nous permet de peser le pour et le contre de chaque option. Ensuite, il nous a aussi placé dans une communauté de frères et de sœurs qui peuvent nous donner des conseils. Et puis, finalement, il nous a aussi donné une certaine personnalité, avec des forces et des faiblesses, des préférences et des aversions. Il n'y a rien de mal à tenir compte de ces éléments quand nous prenons nos décisions. Bien entendu, je ne dis pas que la volonté de Dieu soit toujours en accord avec nos besoins momentanés et nos préférences. Or, même si notre volonté diffère de la volonté de Dieu, je ne vois pas que la Bible nous engage à nier notre volonté. Elle nous engage à subordonner notre volonté à la volonté de Dieu. Mais ça présuppose que nous avons une volonté. Regardons l'exemple de Jésus. Alors, la volonté de Jésus était-elle toujours en accord avec la volonté de son Père céleste? Je crois que non. Ça vous choque un peu? Vous ne me croyez pas qu'il y a eu un conflit entre la volonté de Jésus et la volonté du Père? Alors, soyons très attentifs à ce que la Bible nous raconte sur la prière de Jésus à Gethsémané, juste avant son arrestation. Comme nous connaissons la fin de l'histoire, il y a le danger que le début de cette prière nous échappe. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, ça me dit que Jésus ne voulait pas mourir sur la croix. Il savait ce qu'il ne voulait pas et il l'a dit à son Père. L'obéissance ne consiste pas à nier ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. En effet, je crois que la sincérité avec laquelle Jésus commence sa prière est une condition préalable pour l'obéissance qu'il exprime ensuite quand il dit « Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Bon, le type de décision dont je vais parler aujourd'hui est un peu différent. Dans la situation de Gethsémané, Dieu a fait connaître à Jésus son plan et le défi pour Jésus était de soumettre sa volonté à ce plan divin. Or, comme nous l'avons vu tout à l'heure, dans beaucoup de nos décisions, Dieu ne nous dit pas ce qui est son plan. En conséquence, s'il s'agit d'un choix entre différentes options qui sont équivalentes du point de vue moral, ce choix n'est alors pas une question d'obéissance, mais simplement du bon usage de notre liberté qui nous est donnée par Dieu. Pourtant, cela ne veut pas dire que Dieu nous laisse seuls dans ses décisions. Il a préparé pour nous un don extrêmement précieux et nous sommes invités à le demander à Dieu. Ce don, c'est la sagesse. Nous avons déjà vu que Salomon a demandé à Dieu la sagesse nécessaire pour gouverner. Et la Bible nous dit que cette demande a plu au Seigneur. Dans le Nouveau Testament, l'épître de Jacques nous invite à faire la même chose. Dans Jacques 1, versets 5 à 8, « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproche. Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agité et soulevé par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Son cœur est partagé, il est inconstant dans toutes ses entreprises. » Ce texte me parle beaucoup. D'abord, le terme « sagesse » est une traduction du mot grec « sophia », qu'on trouve aussi dans le mot « philosophie », ce qui est mon métier. Mais ce texte parle aussi d'un autre concept qui est, au moins pour la philosophie moderne, même plus central que la sagesse, le doute. Maintenant, dans la philosophie, le doute est généralement regardé comme un moyen pour atteindre la sagesse. Par exemple, c'est en soumettant toutes ses convictions à un doute radical que René Descartes est arrivé à sa fameuse phrase « Je pense, donc je suis ». Par contre, Jacques nous présente dans ce texte le doute comme un obstacle sur la route de la sagesse. Un homme qui doute, nous dit Jacques, n'obtiendra pas la sagesse divine. Voilà une mauvaise nouvelle pour nous philosophes. Et pour les théologiens, c'est pas mieux. Hein. Néanmoins, je pense qu'il y a de l'espoir, même pour nous. Je le trouve, cet espoir, par exemple, dans la réponse de Jésus au doute exprimé par l'apôtre Thomas après la résurrection, dans l'évangile de Jean 20, 27. C'est vrai que Jésus dit à Thomas de ne pas être incrédule, mais de croire. Mais avant de dire cela, il répond précisément à ce que Thomas a exigé auparavant. Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. C'était exactement ça que Thomas a voulu. Cela me montre que Dieu, au moins dans certains cas, respecte aussi nos doutes. Quelle est donc la différence entre le doute de Thomas et le doute dont Jacques parle dans ce texte? Il me semble que le doute de Thomas a eu un but positif, à savoir la confiance en Jésus. Par contre, le doute dans le texte de Jacques cherche justement à éviter la confiance. C'est un doute qui préfère rester dans l'indécision, dans le flottement, comme les vagues de la mer. Si telle est notre attitude, nous ne recevrons pas de sagesse, parce qu'au fond, nous n'en voulons pas. C'est simplement trop agréable d'utiliser notre manque de sagesse comme excuse pour ne pas prendre une certaine décision. Ça peut même avoir l'air très humble de dire que notre intelligence ne suffit pas pour faire un tel et tel choix. Mais en fait, c'est une insulte à celui qui a créé notre cerveau et qui veut donner de la sagesse à tous généreusement et sans faire de reproches. Aussitôt que nous sommes confiants que Dieu nous donnera la sagesse dont nous avons besoin, nous perdrons aussi notre peur de faire des erreurs ou de prendre des mauvaises décisions. Car la sagesse divine est toujours accompagnée du don principal que nous recevons du Seigneur, la grâce. Dieu est notre Père aimant et il peut nous remettre sur la bonne voie quand nous nous sommes trompés de chemin. Une décision erronée de notre part n'est pas un problème pour Dieu. Mais si le doute et la peur paralysent notre cœur et le rendent incapable de prendre des décisions, si, selon les mots de Jacques, notre cœur est partagé et nous sommes inconstants dans toutes nos entreprises, c'est là que les choses deviennent difficiles. Après nous avoir invités à demander la sagesse à Dieu, Jacques nous donne, dans le troisième chapitre de sa lettre, une description précise de ce que c'est que cette sagesse divine. Jacques 3, 13 à 17. « Lequel parmi vous est sage et intelligent, qu'il montre, par un bon comportement, ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ou bien, une autre traduction dit un esprit querelleur, ne faites pas les fiers et ne montez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut. Elle est, au contraire, terrestre, purement humaine, démoniaque. En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Si nous ne l'avons pas encore remarqué jusqu'à présent, ce texte montre clairement que la sagesse n'est pas une qualité purement intellectuelle, mais implique aussi notre cœur et notre comportement envers notre prochain. Une sagesse, ou bien une intelligence, qui est découplée des fruits de l'esprit, la paix, la douceur, la compassion, fait plus de mal que de bien. Si avoir raison est plus important que l'amour et le respect, nous avons échangé la sagesse divine contre l'intelligence humaine. Je crains que ça m'arrive souvent, parce que je veux avoir raison. Et si je sais que j'ai raison, je veux que les autres le sachent aussi. Alors ça commence à tourner dans ma tête. Je réfléchis aux arguments et aux contre-arguments. Tout cela pour montrer au monde que c'est moi qui ai raison. Ces dernières semaines, j'ai vécu un conflit à l'université où je travaille. Celui-ci a tellement occupé mes pensées que j'ai même mal dormi pour plusieurs nuits. Une fois, je me suis réveillé, ou je me suis levé à 2h du matin pour écrire un mail dans lequel j'expliquais ma position. Ça m'a aidé à me calmer un peu, et j'ai quand même eu la sagesse de ne pas l'envoyer tout de suite. Mais dans ces nuits-là, j'ai clairement ressenti le pouvoir de cet esprit querelleur dont Jacques parle ici. Et je ne peux pas affirmer que mes réactions étaient toujours marquées par la sagesse divine. Je suis en train d'apprendre. En plus, ce n'est pas toujours facile de distinguer les deux types de sagesse mentionnés dans notre texte. Surtout parce que la sagesse divine peut parfois se transformer en une sagesse humaine. Nous pouvons observer ce processus en revenant une dernière fois à l'exemple de Salomon. Nous avons déjà vu qu'il a demandé la sagesse à Dieu et que cette demande a plu au Seigneur. La Bible nous raconte ensuite un épisode qui montre la sagesse de Salomon et qui se termine ainsi, dans le premier livre des Rois 3, 28. En effet, on avait constaté qu'il bénéficiait de la sagesse de Dieu pour exercer la justice. Ensuite, le chapitre 5 parle de nouveau de la sagesse de Salomon. Mais le rapport avec la justice a disparu. Alors dans le premier livre des Rois 5, versets 9 à 10, « Dieu donna à Salomon la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances aussi nombreuses que le sable qui est au bord de la mer. » La sagesse de Salomon dépassait celle de tous les nomades de l'Est et toute la sagesse des Égyptiens. Il n'y a pas de jugement moral sur Salomon dans ce passage. Ça viendra plus tard. Mais j'ai quand même l'impression que le texte nous montre déjà la perte d'une certaine qualité divine dans la sagesse de Salomon. Certes, la sagesse vient toujours de Dieu. Mais la manière dont Salomon l'utilise me semble plutôt orientée vers une glorification de soi-même que vers la glorification de Dieu. Cette impression est renforcée par le récit de la visite de la reine de Saba dans le chapitre 10. Il est écrit que la reine de Saba vint pour mettre Salomon à l'épreuve par des énigmes et lui, il répondit à toutes ces questions. Encore une fois, Salomon fait preuve de sa supériorité intellectuelle. Mais le chapitre suivant, le chapitre 11, montre que ses décisions ne sont plus dirigées par la sagesse. Bien au contraire. Son amour pour les femmes étrangères le conduit à l'idolâtrie et à l'infidélité envers Dieu. Et par conséquent, Salomon perd sa royauté. La sagesse divine n'est donc pas quelque chose que nous recevons une fois et qui nous appartient à partir de ce moment. Si notre relation avec Dieu n'est pas sincère et vivante, même une sagesse aussi grande que celle de Salomon ne va pas aboutir aux bonnes décisions. Par contre, si nous faisons confiance à Dieu, et lui demandons la sagesse en toute conscience de nos désirs, nos besoins et nos préférences. Nous sommes assurés que la sagesse qu'il nous donne suffira pour prendre des bonnes décisions. Cette sagesse ne nous permettra pas de résoudre toutes les énigmes de la reine de Saba. Et cette sagesse n'empêchera pas non plus que la prise de décision va parfois demander pas mal de courage. Mais nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Et c'est un chemin plein d'aventures et de découvertes. Que la grâce, la sagesse et la paix de notre Seigneur soient avec vous tous. Amen.